L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème Le veau d'or. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton appel. Seigneur, dispose nos cœurs au travers de ce message. Bénis ce message. Parle à ces hommes et à ces femmes qui nous écoutent de par le monde, sur des radios FM, sur des radios sur Internet, sur des supports informatiques. Parle à ces hommes, parle à ces femmes, Seigneur. Les temps sont courts, Jésus revient bientôt. Et nous avons l'image du veau d'or dans ce monde. Seigneur, parle. Parce que lorsque tu parles, le but est de réveiller, de guérir, de sauver ton peuple. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le veau d'or. Je vous invite encore à lire dans Exode 32, le premier verset jusqu'au sixième verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fente. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, toujours sur ce thème, ces six versets que nous venons de lire sont les plus tristes à mon cœur, mais malheureusement, qui nous enseignent aussi des grandes vérités. C'est très triste, mais ça enseigne des vérités spirituelles. Israël, ici, représente l'Église de Jésus-Christ. Le peuple, les hommes et les femmes qui se prétendent appartenir à Jésus-Christ. Ils sont nés de nouveau, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont passés par les eaux du baptême. Mais pendant leur marche chrétienne, ils commettent des erreurs. Nous sommes des humains. Et vraiment, mon but est que quand nous sommes en train de partager sur ce thème, et que quelqu'un se réveille et se dise « Attention, je ne veux pas marcher comme Israël dans le désert parce que c'est un avertissement que le Seigneur m'a donné. Je ne peux pas marcher de n'importe quelle manière. » Ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse, c'est l'image, dans ce texte, Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ qui est monté à partir de la montagne des Oliviers et il reviendra de la même manière. C'est vrai que nous sommes en train de le dire depuis des siècles, Jésus revient bientôt. Et certainement, il y a des gens qui sont en train de m'écouter en ce moment, qui sont en train de dire, mais depuis le temps que vous dites que Jésus revient, les choses demeurent les mêmes. C'est la même chose avec Israël ici. Moïse a promis de revenir. Mais ça fait 35 jours, ça fait 37 jours, ça fait 39 jours, ça fait 40 jours qu'il est parti et on n'a pas de nouvelles. D'ailleurs, qui peut continuer à vivre sans avoir mangé, sans avoir bu pendant 40 jours et 40 nuits? Ce Moïse, il est mort. Aaron, fais-nous un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Représente-nous un Dieu, nous allons l'associer à Dieu. Alors que la Bible interdisait cela. J'aimerais commencer à parler un peu sur Aaron et son attitude dans cette situation. Aaron représente ici particulièrement le type de chrétien qui a peur des hommes. Le type de chrétien qui fait les choses pour faire plaisir aux hommes. Aaron représente ici le type de croyant en Christ, le type de chrétien qui s'associe à la majorité d'hommes et de femmes. Mon frère, ma sœur, laissez-moi vous dire, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Ce n'est pas parce que 6 milliards d'hommes et de femmes disent qu'il faut aller à droite que forcément c'est le bon chemin. Ce n'est pas parce que 6 milliards d'hommes et de femmes disent aujourd'hui que nous vivons dans des temps modernes, il est tout à fait normal que deux hommes ou deux femmes du même sexe s'aiment et se marient et tout le monde va accepter cela. Non mon frère, non ma sœur. Ce qui doit être important dans notre vie, c'est qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage des homosexuels? Qu'est-ce que Dieu a dit sur l'avortement? Qu'est-ce que Dieu a dit sur les meurtres? Qu'est-ce que Dieu a dit sur la guerre? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le vol? Qu'est-ce que Dieu a dit sur l'adultère? Qu'est-ce que Dieu a dit? Combien d'hommes et de femmes ne se soucient plus aujourd'hui? Et quand je parle d'hommes et de femmes, je parle de ceux et de celles qui sont dans l'Église de Jésus. Ils ne se soucient plus de ce que Dieu a dit. Israël aurait dû poser la question à Aaron. Aaron, en fait, ils auraient été plus sages s'ils avaient dit Aaron. Ça fait 40 jours et 40 nuits qu'on n'a plus de nouvelles de Moïse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on est perdu. On est perdu. Si Moïse n'est pas là, nous ne serons pas arrivés à Canaan. Ils auraient pu dire ça comme ça. Mais au lieu de parler de cette manière, ils proposent même la solution à Aaron. Aaron, c'est toi le souverain sacrificateur. Alors, fais-nous une statue. Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Depuis quand les statues, depuis quand les objets conduisent les hommes? Vous voyez, c'est là où on est complètement passage du tout. On se présente devant une statue, on dit à une statue, écoutez, est-ce que je dois prendre à gauche ou est-ce que je dois prendre à droite? Mais, je crois que c'est le psaume 115. À partir du verset 4, à moins que je me trompe, les oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des bouches, elles ne savent pas parler. Elles ne savent pas parler. Et puis même si elles parlaient, ce sont des démons qui parlent au travers de ça. Écoutez, il faudra être vraiment insensé pour se laisser conduire par un démon. Un démon ne veut que notre destruction. Ils auraient pu dire, Israël aurait pu dire à Aaron, Aaron, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Moïse avait 40 jours et 40 nuits, on n'a pas de ses nouvelles. Peut-être que Aaron aurait eu une autre réaction, mais malheureusement, Aaron avait peur des hommes. Proverbe 29, verset 25. Voici ce que Dieu nous dit sur la peur des hommes. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes est un piège. La crainte des hommes mène dans le fossé. Aaron avait peur. Je ne sais pas s'ils étaient combien exactement, parce que on parle de quand Israël est sorti d'Égypte, on parle de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Certains commentateurs parle d'une population de 3 millions, 3-4 millions. Aaron avait peur de toutes ces personnes. Il disait, mais si je dis autre chose que ceux qui veulent, ils vont me tuer. La crainte des hommes, la peur des hommes, le fait de chercher à faire plaisir aux hommes, c'est un danger. C'est un danger. Écoutez, mon frère, peut-être que vous êtes dans des places de décision. Je ne sais pas, au travers d'une nation, peut-être au travers d'une entreprise. Prenez les décisions qui sont justes, conformes à la parole de Dieu. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux hommes. Regarde, j'approuve la démocratie. Je suis pour la démocratie. C'est une très bonne chose, la démocratie. Mais observez avec moi que dans beaucoup de pays dits démocratiques, il y a des lois qui sont appliquées, qui sont des lois complètement anti-bibliques. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes veulent ça. Moi, au travers de ce genre de raisonnement, je comprends qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là. Vous imaginez 60% de personnes qui vont, par exemple, voter pour l'avortement. Ils approuvent l'avortement. 60% de la population, par exemple. 60% de la population qui approuve l'avortement. Ça prouve que dans ce pays-là, 60% de personnes ne connaissent pas la volonté de Dieu dans ce domaine. Ou s'ils connaissent la volonté de Dieu dans ce domaine, 60% de la population sont contre Dieu. Et là, cela nous montre qu'il faut vraiment, vraiment se lever et parler de la part de Dieu. Faire connaître la volonté de Dieu. La crainte des hommes tend un piège. Alors vous allez retrouver des électeurs, des élus pour faire plaisir à la population parce qu'ils pensent à leur poste. Ils pensent à leur carrière politique. Ils pensent à leur carrière économique, à leur carrière dans l'entreprise. Pour faire plaisir aux gens, ils vont prendre une directive que 60% des personnes leur imposent. Aaron, c'est ce qui lui est arrivé. Dans le domaine du leadership, mon frère, ma soeur, on ne fait pas n'importe quoi. Vaut mieux être seul avec Dieu que être avec la majorité, mais contre Dieu. Parce que vous imaginez, 98% de la population est contre Dieu. Vous vous ralliez à ces 98%. Pensez-vous que si vous devez combattre Dieu, vous allez subsister? Vous allez tenir? Non. 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 Vous allez passer. Alors, arrêtons d'avoir peur des hommes. Arrêtons de faire plaisir aux hommes. Arrêtons de la crainte des hommes. Mais j'aime ce que le verset 25 de Proverbe 29 dit. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Protégé de quoi? De cette majorité de personnes, d'hommes et de femmes, qui ne veulent pas marcher contre, qui veulent pas marcher avec Dieu, mais qui veulent des lois contre Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Parce que s'il ne le fait pas, alors Dieu devient infidèle. Or, la Bible dit qu'il est fidèle, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous lisons les évangiles, nous arrivons à une période où on appelle une période où Jésus n'est plus accepté, où Jésus est rejeté. Est-ce que ça a poussé Jésus à changer d'avis? Non. Il a gardé le même langage. Il a gardé les mêmes buts, celle de faire connaître la vérité. Il y a un homme dans la Bible, dont je voudrais que nous parlions un tout petit peu, qui a dit des choses pour faire plaisir, parce qu'il avait peur pour sa vie. Lisons dans Genèse 12, c'est Abraham, c'est l'histoire d'Abraham, lorsqu'il descend en Égypte, à Genèse 12, à partir du verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront. » Et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, ils la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des boucs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des agnès et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà un cas d'un homme qui craint les hommes. Il a une très belle femme, Saraï. À cette époque-là, ils n'étaient pas encore Sarah, ils n'étaient pas encore Abraham, mais ils étaient Abraham et Saraï. Il y a une famille. Ils apprennent qu'en Égypte, oh, c'est merveilleux, on réussit dans les affaires là-bas. Tout ce qu'on touche prospère. L'Égypte, c'est l'image du monde. Il va s'installer dans le monde. Il retourne dans le monde, lui qui était sorti du monde, lui qui avait suivi Dieu. Et en retournant, il dit à sa femme, écoute, Ma chérie, si on part là-bas, tel que je te vois, ça va me créer des problèmes. Comment ça, chérie? Tu es une belle femme. Ces gars-là vont me tuer à cause de toi. Je connais leur mentalité. Alors on va jouer leur jeu. On va dire que tu es ma sœur. Après tout, c'est pas si faux. Tu es ma demi-sœur. Voilà. La peur des hommes, ça pousse les enfants de Dieu à vivre encore dans le péché. Mens que tu es ma sœur. Alors la dame va commencer à dire non. Dès qu'on lui posait la question, vous êtes qui? Ah non, je suis la sœur de Abraham. C'est vrai, vous n'êtes pas sa femme. Non, non, je suis sa sœur. Très belle femme. Plus belle femme d'Égypte. Il apprend. Et bon, entre guillemets, son faux frère, il lui achète tout plein de biens. Il lui donne des servants, de l'or, de l'argent, des richesses. Ce sont des richesses qui ont été mal acquises. Vous voyez, la peur des hommes pousse les hommes à pécher. Et tout ce qui touche devient une source de malédiction. Parce que lorsque Abraham va sortir de l'Égypte, la servante, il va prendre une de ses servantes avec qui il aura un enfant qui s'appelle Ismaël. C'était une Égyptienne. Elle venait du cadeau qu'on lui avait donné par Pharaon. Voilà. Si Abraham, à l'époque, avait été honnête, dire c'est ma femme, ne la touchez pas. Dieu l'aurait protégé, comme nous l'avons lu dans Proverbe 29, verset 25. Mais parce qu'il avait la crainte des hommes, parce qu'il avait peur pour sa vie, je suis tenté de dire entre guillemets, il a livré sa femme à la prostitution. Il a livré sa femme à la prostitution. Au verset 19, il est dit, pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Je ne saurais pas vous dire avec précision que Pharaon avait couché avec la femme d'Abraham. Je ne saurais pas vous dire ça. Mais le fait qu'il avait déjà prise et que lui, il avait eu des biens, c'est comme s'il avait poussé sa femme à la prostitution. Voilà. Non seulement il a eu peur, il a menti, ça a entraîné un mensonge, ça a entraîné une forme de prostitution. Et ce n'est pas fini. Quand ils sortent avec Agar, avec qui il aura Ismaël, avec qui Ismaël aura des enfants qui vont combattre Israël jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur des hommes au départ. Mon frère, ma sœur, les petits péchés que nous appelons petits péchés aujourd'hui ont des grandes conséquences vers la fin de notre vie. Aujourd'hui, je suis en train d'observer un peu le monde et je me rends compte que particulièrement parmi les gens qui m'entourent, les gens qui ont vécu dans le péché, qui ont vécu dont ils n'avaient pas de frein, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, prendre toutes les femmes qu'ils voulaient. Quand j'observe la fin de leur vie, ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Certains ont fait des choses pour faire plaisir à leur famille. Ils ont eu une femme, ils ont eu des enfants, mais parce que leur famille dit, non, cette femme n'est pas originaire de notre tribu, de notre province. Tu dois prendre une femme de notre province. Il prend la femme de sa province, il a des enfants, mais à la fin de leur vie, ce sont des déchirements, ce sont des disputes, ce sont des guerres. Mais des fois, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut être un bon père et voir ses enfants s'entre-déchirer et ne rien faire? Mon frère, ma sœur, il est très important de marcher avec Dieu. Je suis même tenté de dire entre parenthèses, vous qui cherchez à vous marier, ne vous mariez pas avec n'importe qui. Ne faites pas alliance avec n'importe qui. Peut-être vous allez pleurer au départ, vous allez dire, frère, c'est trop dur, j'aime ce frère, j'aime cette sœur. Mais si elle n'a pas les mêmes objectifs spirituels que vous, à la fin de votre vie, les choses seront amères. Abraham pousse sa femme à mentir. Abraham expose sa femme à la prostitution pour protéger sa vie au départ. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de l'égocentrisme. On lui donne des cadeaux. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est que quand Abraham va sortir d'Égypte, dans cette histoire, il ne va pas remettre les cadeaux. C'est comme ça que Keturah est entré dans la vie d'Abraham. Il ne va pas remettre les cadeaux. Il aurait dû remettre. Mais je suis même tenté de dire que Pharaon, dans cet épisode ici, a un sens moral plus élevé que Abraham. Parce qu'on lui a donné des choses qu'il méritait. On ne les réclame pas. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont souillées. Attention aux choses souillées que nous faisons entrer dans nos maisons. La crainte des hommes tend un piège. Dans Jean 12, maintenant là c'est Jésus qui parle. Jean 12, verset 42. Jean 12, verset 42. Il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur cette histoire de veau d'or. Hein. Jean 12, verset 42. À partir du verset 42. Il est dit ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient point l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus la gloire de Dieu. Plus que la gloire de Dieu. Ouais, Jésus, des hommes et des femmes sont en train de reconnaître celui-là. En tout cas, c'est le Christ. Il n'y a rien à faire. Il nous donne les signes, il nous donne les preuves. Mais les pharisiens ne sont pas en train de le reconnaître. Alors, une règle a commencé à circuler. Des interdictions ont commencé à circuler. Quiconque va reconnaître Jésus comme étant le Christ, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Sauveur des hommes, comme étant le Sauveur de l'humanité, on va l'exclure de la synagogue. Quiconque va reconnaître Jésus va perdre ses titres au sein de la communauté. Quiconque va reconnaître Jésus comme le Christ se verra exclu de la communauté des hommes d'affaires. Quiconque reconnaîtra Jésus comme le Sauveur, comme le Fils de Dieu, comme Dieu, va être exclu de la communauté des pasteurs. C'est ça qui se passe dans cette histoire. Alors, la Bible dit, ils ont préféré l'honneur des hommes plutôt que l'honneur de Dieu. Ah, ils se sont peut-être dit, ah, mais l'honneur de Dieu, ça prend du temps. La gloire de Dieu, ça prend du temps. Dieu, le temps qui te reconnaît. Je préfère ceux des hommes. En d'autres termes, ils avaient beaucoup plus peur des hommes que de Dieu. La crainte des hommes, mon frère, la crainte des hommes, ma sœur, est un piège. Combien de fois n'ai-je pas entendu des histoires de certains hommes de Dieu dans une certaine communauté qui prêchent des fausses doctrines? On parle avec eux, ils disent ce que vous dites est vrai. Je suis dans l'erreur dans cette communauté. Mais aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, j'ai plus de 60 ans, j'ai plus de 70 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Je préfère rester là et continuer. En d'autres termes, je préfère rester là et continuer dans le mensonge. Pourquoi? Parce que s'ils quittent, ils vont beaucoup perdre. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Leur salaire, leur pension, leur voyage, leur titre, les honneurs, les portes. Ils vont perdre beaucoup de ces choses. En d'autres termes, ils préfèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et je suis même certain qu'il y avait même parmi les pharisiens, ça on peut le lire avec Nicodème, ils ont reconnu Jésus. Ils se disent, non, mais attends, nous n'avons jamais vu un homme faire autant de choses aussi merveilleuses en si peu de temps. Et en plus, c'est un homme qui marche dans la sanctification, vous imaginez. C'est un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Dans Jean 3, si je ne me trompe pas, c'est Jean 3, quand Nicodème parle à Jésus, j'aimerais qu'on le lise. Quand Nicodème parle à Jésus, il le dit. Je vais revenir sur ça. Nicodème lui dit, comment un enfant peut-il naître? Non, je m'excuse. Commençons au verset 1. Jean 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, c'est-à-dire en cachette, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez. Il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il le fait de cachette seulement, parce qu'il a peur. Et lorsque Jésus-Christ va se retrouver devant le Sanhédrin, pour être jugé, Nicodème sera là aussi. Et personne ne va s'opposer à la mort de Jésus. Pourquoi? Ils ont peur de perdre leur titre. Ils ont peur. Peur de perdre leur titre, de perdre leur famille, de perdre leur gloire, leur richesse. Mais ils ont oublié que celui qu'ils ont reconnu comme étant Christ est le créateur de toutes choses. C'est la même chose avec Aaron. Il a oublié qu'en faisant plaisir aux hommes, il est en train de rejeter le Dieu d'Israël. Parce que nous l'avons lu dans Exode 20, verset 23, Dieu a clairement dit à Moïse et à Aaron, « Vous ne vous ferez jamais des dieux en argent, des dieux en or, et me les associer. » Aaron le savait, mais parce qu'il voulait faire plaisir aux hommes, parce qu'il ne voulait pas aller à contre-courant, parce qu'il voulait voler avec tous les petits oiseaux, et non être un aigle qui vole tout seul, il s'est associé à l'idolâtrie. Mon frère, ma sœur, Aaron n'est pas entré en Canaan. Attention mon frère, attention ma sœur, ne marchons pas dans une marche chrétienne pour faire plaisir aux hommes. Ah non, on ne fait pas plaisir aux hommes. Qui est l'homme? Qui est l'homme pour que je lui fasse plaisir, content à faire plaisir à Dieu? Mon frère, ma sœur, au moment où nous sommes en train de finir ce message du jour, la question que j'aimerais vous poser, vous faites plaisir à qui? Est-ce que vous avez la crainte des hommes dans votre cœur ou bien la crainte de Dieu? Réfléchissez, mon frère, réfléchissez, ma sœur. Si vous avez la crainte des hommes dans le cœur et vous voulez demander pardon à Dieu, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. Je te demande pardon parce que je crains les hommes. Je te demande pardon parce que je cherche à faire plaisir aux hommes et non faire plaisir à Dieu. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie. Quoi qu'il puisse arriver, de faire plaisir au Dieu vivant, de faire plaisir à Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le veau d'or. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.